Dans ma pratique, ce qui me frappe, c'est que les jeunes, pour pouvoir venir au planning familial, ont besoin de ce que l'on appelle, les professionnels, une porte d'entrée. Au fond, il leur faut une demande pratique du type « j'ai peur d'être enceinte »,« j'ai un retard de règles », ou bien « j'ai vécu ma première relation, ça ne s'est pas très bien passé »,« j'ai peur que le préservatif n'ait pas tenu ». Au fond, il faut une sorte de demande d'aspect très pratique pour pouvoir oser venir frapper à la porte du planning. Alors c'est ce qui nous fait dire que si les garçons le fréquentent un petit peu moins, malheureusement, ils le fréquentent, mais peu, c'est parce qu'il manque de porte d'entrée. Et qu'une de ces nouvelles portes d'entrée, c'est de venir parler des craintes liées au sida et de demander un test, par exemple.
Vous avez la sensation, Eliane Lona, par rapport à votre pratique, toujours qu'il y a encore une minorité de jeunes qui font le pas de venir au planning familial. Et pourquoi ?
Alors moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui nous fréquentent. Et je pense qu'en Valais, dans tous les centres qui existent dans le Valais romand, donc entre Sierre, Sion, Martigny et Monté, le développement de l'éducation sexuelle est lié au développement des centres de planning familial. Et comme les jeunes, au fond, connaissent nos visages, nous voient dans les classes, ils prennent confiance. Et moi, je trouve que toutes ces dernières années, il y a un véritable développement de l'utilisation des centres par les jeunes.
En règle générale, à votre avis, les choses ont beaucoup changé ces dernières années. Ça fait 12 ans que vous faites ce métier. Vous sentez une grande évolution ?
Oui. Et ça, je crois qu'on peut dire qu'il y a une évolution de la société entière en Valais. Ce qui a peut-être favorisé l'ouverture des portes dans les écoles, c'est le phénomène du sida et l'obligation, au fond, pour les directeurs d'école, pour la santé publique, de faire la prévention. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas aborder les risques tels que le sida sans parler de l'amour, des relations humaines, du corps, de la sexualité. D'ailleurs, les élèves, très rapidement, nous posaient plutôt ces questions-là que des questions liées au sida. Et je pense que grâce à ce phénomène, il y a eu davantage de cours, mieux organisés, avec une cohérence, en tout cas en ce qui concerne le Valais romand, dans le programme proposé au cycle d'orientation, et que grâce à cela, il y a tout un discours autour de la sexualité, les mots pour en parler, le vocabulaire qui a été rendu plus accessible et qui permet aux jeunes de mieux débattre entre eux, de mieux parler. Moi, ce qui me frappe, surtout dans les classes, c'est la qualité des débats qu'il peut y avoir autour de l'amour, de la sexualité, des relations garçons-filles, du sida.
Par exemple, vous avez un thème dont vous vous souvenez récemment, que des jeunes ont discuté ?
Bon, ben là, c'est vieux, il faut que je me souvienne des derniers cours donnés en mai-juin. Donc, peut-être que le débat le plus riche, c'est le thème lié aux relations garçons-filles, où ils réfléchissent en groupe sur ce que les filles attendent des garçons, les garçons attendent des filles, ce qui attire, par quoi ils sont attirés l'un par l'autre. Et cela permet de faire ressortir les préjugés qu'un sexe a par rapport à l'autre. Et ensuite, on met ensemble, ils travaillent d'abord en petits groupes, puis ensuite on débat en grand groupe. On leur propose aussi de réfléchir aux valeurs et à ce qu'ils attendent de la relation avec la personne qu'ils aiment ou qu'ils aimeront, parce que l'idée, c'est aussi de les aider à se projeter dans l'avenir, d'élaborer des expériences possibles, des possibles.
Et les garçons participent autant que les filles, ou il y a maintenant aujourd'hui une sorte, entre guillemets, d'égalité face à cette question entre garçons et filles?
Moi, je dirais que les garçons, surtout, s'expriment beaucoup et des fois prennent énormément de place, et que les filles auraient tendance à être un peu plus en sourdine et à privilégier l'entretien individuel, la discussion à deux avec une amie. Et dans les classes, les garçons sont souvent très participants à un débat. Mais moi, ce qui m'impressionne ces dernières années, c'est la qualité du débat, le respect qu'ils ont vis-à-vis les uns des autres, les opinions qu'ils défendent. Moi, j'ai beaucoup de plaisir. Et au fond, cette ouverture, ces mots utilisés, bien, je les retrouve dans les entretiens en planning. Je trouve que de plus en plus, les jeunes abordent plus volontiers, plus facilement le domaine de la sexualité.
Je vous remercie beaucoup, Eliane, parce que vous m'avez aidée à trouver des jeunes femmes qui soient d'accord de témoigner. J'ai été beaucoup frappée par le fait qu'elles ont, en toute confiance, nous ont transmis beaucoup de choses d'elles-mêmes. Est-ce que vous étiez sûre d'avance que ça se passerait comme ça?
Ah non, pas du tout. Quand j'ai reçu votre demande, j'ai d'abord eu beaucoup de doutes de pouvoir trouver des jeunes qui soient d'accord, surtout s'agissant du thème de l'interruption de grossesse, qui est un thème difficile et émotionnel quand même. Et oh, j'ai trouvé très chou, j'ai été très, très touchée de voir comment ces filles ont répondu oui tout de suite. Et bon, elles nous ont proposé de trouver d'autres amis, garçons ou filles. Apparemment, elles n'ont pas pu trouver ou su convaincre leurs amis à venir. Mais les trois qui ont témoigné là ont été d'accord tout de suite.
Alors, on a eu de la peine, Eliane, à réunir des jeunes filles qui elles-mêmes ont décidé à un moment donné d'interrompre une grossesse. Vous pensez que c'est dû à quoi?
Mais déjà, par le fait que nous en voyons extrêmement peu. Là, une récente enquête sur la santé des adolescents en Suisse et sur leur sexualité montre qu'il y a environ, sur l'ensemble des filles entre 16 et 20 ans qui ont une vie sexuelle active et qui ont été interrogées, il y a environ 2,5% de filles qui ont été enceintes et qui n'ont pas mené leur grossesse à terme. C'est un chiffre contre lequel il faut encore se battre, mais en fait, c'est un chiffre relativement rassurant. Et puis, ici, en tout cas dans notre région, on a très peu de demandes liées aux interruptions de grossesse. Alors, on peut peut-être le regretter, parce qu'on sait qu'il y en a. On sait qu'il y en a pas mal qui concernent des jeunes filles étrangères ou des jeunes filles au pair, par exemple, ou des femmes étrangères, et qu'on peut regretter qu'elles ne viennent pas au planning parce que ce serait l'occasion avec elles de réfléchir comment ça s'est passé, comment elles se sont retrouvées dans cette situation et comment, pour la suite, elles peuvent éviter de s'y retrouver.
Et parce que qu'est-ce qu'elles font, celles-là, alors, si elles ne viennent pas? Ces jeunes femmes, que font-elles alors pour résoudre leurs problèmes si elles ne viennent pas au planning?
Alors, moi, je pense qu'elles s'adressent directement à leur gynécologue et qu'elles règlent ça avec lui et avec le. Pour l'aspect légal, puisqu'il faut l'avis conforme, donc l'autorisation d'un deuxième médecin pour obtenir une interruption de grossesse. Je pense qu'elles suivent ce canal-là par le. En s'adressant à leur médecin.
Ou elles ont encore le réflexe d'aller à Aigle, par exemple, parce qu'avant, c'était beaucoup plus difficile d'obtenir une interruption de grossesse en Valais.
Je pense. Et puis, il y a un désir aussi. On est un canton avec de petites villes. Et je crois que même si en Valais, les interruptions de grossesse et si cela se libéralisait, je pense qu'il y a toujours des femmes qui continueraient à s'adresser à l'extérieur par souci d'anonymat. Mais ouais, ce que je voulais dire avant, je n'avais pas terminé, c'est que en fait, si on n'a pas trouvé de jeunes filles acceptant de témoigner, d'une part, nous en voyons très très peu dans l'année, et d'autre part, celles que j'ai pu côtoyer, au fond, ont toutes exprimé à un moment donné le souhait de ne plus revenir nous voir pour continuer en ne ressassant pas toujours la même histoire. Et au fond, ça, je le respecte.
Vous pensez que c'est parce que ça reste un moment très douloureux, et quand elle dit par sasser, ou parce qu'elles ont encore des doutes sur le choix qu'elles ont fait, ou...
Non, je crois pas. Moi, je crois que ça fait, si on pense aux adolescentes, je pense que ça fait plus partie de leur processus de développement, où les choses vont très vite et au fond, leur vie avance à grands pas. Non pas qu'elles veulent oublier parce que c'était trop douloureux, mais parce qu'il y a d'autres enjeux, l'école, l'apprentissage, un copain, une relation amoureuse, enfin voilà, d'autres choses les préoccupent.
Ce qui m'a frappée, c'est dans toutes les questions que je leur ai posées, c'était l'extrême clarté avec laquelle elles disent, que ce soit à propos de ma première relation sexuelle, à propos de contraception ou du risque de grossesse et d'une éventuelle décision d'interruption de grossesse, c'est moi qui choisirai. Est-ce que ça vous surprend?
Non. Je crois que alors c'est vraiment ce que j'entends aussi dans les classes, ce que j'entends dans tous les entretiens au planning, c'est qu'il y a une conscience de l'importance du choix et de la responsabilité individuelle. Puis ce qui me frappe, alors, c'est que la plupart des jeunes que je vois se prennent en charge, se responsabilisent, font peut-être une fois une erreur en ne se protégeant pas, par exemple, et ils ont à ce moment-là très peur. Et je crois que la peur, à ce moment-là, est très, si elle est exploitée, est très utile parce qu'elle les fait progresser et puis ces jeunes, tout à coup, peuvent élaborer d'autres stratégies pour plus revivre la même situation de panique.
En fait, Léane, il y a quand même une question que j'aimerais vous poser. Comment ça se fait que malgré tous les efforts d'éducation sexuelle, malgré les démarches que les jeunes font visiblement pour aborder la question de la contraception, il y a encore des jeunes filles qui se trouvent enceintes? Comment on peut expliquer ça aujourd'hui? Est-ce que vraiment c'est parce que les jeunes filles trouvent comme seul moyen d'avorter, comme on a l'air de dire parfois?
Non, ça n'est jamais consciemment, l'interruption de grossesse n'est jamais consciemment utilisée comme moyen de contraception, ça c'est clair. Moi je pense qu'il y a plusieurs explications. Dans cette dernière enquête dont je parlais tout à l'heure, l'hypothèse est faite qu'il y a une légère augmentation d'interruption de grossesse chez les jeunes en Suisse, notamment grâce, malheureusement à cause... Du fait que les jeunes utilisent davantage maintenant le préservatif et que le fait qu'il puisse y avoir des ruptures de préservatif a pu faire que ça a entraîné des grossesses. L'autre hypothèse, je pense que la contraception n'est pas quelque chose de figé qu'on choisit une fois pour toutes dans sa vie, et le fait même que les adolescentes subissent une évolution très importante entre 16 et 20 ans fait que elles doivent constamment se reposer des questions, refaire des choix, se dire mais qu'est-ce que je vis, où je vais, qu'est-ce que je choisis, est-ce que je choisis l'abstinence, est-ce que je choisis une méthode de contraception sûre, mais si je choisis la pilule, est-ce que je vais pas courir un risque lié au sida? Donc rien n'est simple et dans toutes ces complications, au fond, il peut arriver un pépin. Et je pense qu'une troisième raison qui fait que malgré la contraception, l'information largement faite, certaines jeunes filles se retrouvent enceintes de façon involontaire, est certainement liée à quelque chose de plus ancien, à leur histoire familiale, à leur histoire d'identité de fille. Et d'ailleurs, quand je vois une jeune fille enceinte au planning, souvent sa première demande est de me dire « Ne dites surtout rien à mes parents, je ne sais pas comment je vais leur en parler, il ne faut surtout pas leur en parler. » Alors que souvent, nous nous rendons compte, nous les conseillères, que c'est justement là la clé de tout. Au fond, souvent, cette grossesse, elle vient un petit peu comme un appel à l'aide ou comme un... Oui, pour dire aux parents, j'existe. Ou... Ouais, elle met en évidence un problème à l'intérieur de la famille, un problème relationnel. Et que si on entre dans leur jeu en disant non, on va faire ça en cachette, ce qui est exclu... Même si
exclu du point de vue légal ou point de vue de votre éthique de planning?
Du point de vue légal, à partir de 16 ans, une jeune fille pourrait choisir une interruption de grossesse sans en informer ses parents. Mais de notre point de vue à nous, pour ne pas au fond rater, pour pas que cette interruption de grossesse n'ait aucun sens, qu'elle ait lieu et puis hop, après on continue sa vie, on oublie, nous ça nous semble important que la jeune fille réalise... Non seulement pourquoi elle est tombée enceinte, mais le sens que ça a, pourquoi ça arrive à ce moment-là dans sa vie, pourquoi alors qu'elle savait qu'elle courait un risque, elle a quand même couru ce risque. Et on va beaucoup l'encourager à en parler à au moins un de ses parents, parce qu'il nous semble qu'elle rate quelque chose sinon. Et la plupart... Alors nous ne prenons jamais le téléphone pour en parler aux parents, c'est elle à un moment donné qui va choisir d'en parler. Et là, il me vient un exemple d'une jeune fille de 19 ans que j'ai vue il y a quelques années, qui m'a dit « Mais je suis étonnée, je ne pensais pas que mes parents m'aideraient autant, m'entoureraient aussi bien. Et j'ai qu'une peur, c'est que ça retombe et que tout redevienne comme avant, cette espèce d'indifférence dans laquelle on vivait tous. Alors ça, je me dis que il faut toujours penser à ne pas rater cet aspect-là, du sens que la grossesse et l'interruption de grossesse a dans la vie d'une jeune fille à ce moment-là.
Mais alors, fondamentalement, Eliane, vous avez l'impression que ces jeunes qui viennent vous voir, c'est quand c'est à propos de l'interruption de grossesse, c'est quelle demande en particulier? C'est pour encore les aider à faire leur choix, oui, non, à l'interruption de grossesse, ou seulement pour les aider à obtenir cette interruption de grossesse?
Alors, typiquement, hein, je parle des jeunes filles. Les jeunes filles qui viennent, elles s'adressent à nous en général parce qu'elles ont un retard de règles et qu'elles demandent un test de grossesse. C'est souvent ça, la porte d'entrée. Et la première chose souvent évoquée, c'est si elles sont enceintes, à qui je vais en parler et mes parents, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et au fond, souvent le travail se fait là autour. Souvent la décision, garder ou ne pas garder la grossesse, est prise déjà dans leur tête avant qu'elles viennent nous voir. Elles se disent, je pense que je suis enceinte. Quelquefois, elles ont déjà fait un test en pharmacie, alors qui s'est révélé positif. Nous, on en refait un quand elles viennent. Mais souvent, elles ont déjà, au cours du week-end, par exemple, élaboré un choix. Et souvent, elles sont déjà assez convaincus soit de garder la grossesse, soit de ne pas garder la grossesse.
Hélène Luna, vous avez l'impression que si la loi changeait maintenant dans tout le débat qui a lieu en ce moment, est-ce que ça changerait beaucoup la question pour les jeunes aujourd'hui?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, si ce n'est que chaque fois qu'il y a un débat politique, comme dans les années 76, 77, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait avancer la cause de la prévention. Je ne sais pas si pratiquement les choses changeraient beaucoup, mais en tout cas, soit les politiques, soit les professionnels de la santé, tous les gens concernés se disent, mais enfin, si ça existe encore, alors il faut améliorer l'accès aux services de planning, il faut améliorer l'éducation sexuelle, il faut améliorer l'aide aux familles, etc. Et je pense que ce débat, en ce moment, est très intéressant parce qu'il fait avancer, la prévention et, je dirais, le vocabulaire. Je pense qu'une émission telle que celle de ce soir n'aurait pas pu exister il y a 10 ans.
Pourquoi ?
Ben, je pense que ça aurait été beaucoup trop sensible. Non pas que le sujet ne soit pas encore sensible, mais à l'époque, au fond, il y avait encore beaucoup de silence là autour.
Mais vous avez la sensation que, du coup, l'IVG, l'interruption de grossesse, est-ce que vous avez la sensation, si la loi décriminalisait l'interruption de grossesse, que ce serait une décision plus facile à prendre pour les jeunes qui viennent vous demander conseil?
Non, non. Parce que je dis toutes, hein, mais j'en vois peu, mais les jeunes filles ou les femmes adultes que je vois qui sont enceintes involontairement me disent toujours, mais moi je suis pour la vie, mais moi je veux des enfants plus tard, je suis contre l'avortement. Et puis je me retrouve dans cette situation et au fond je ne peux pas assumer cet enfant qui va arriver, c'est impossible. Je n'ai pas le courage, je n'ai pas la force, je n'ai pas l'énergie, je n'ai rien à lui offrir, il n'y a pas le... Alors là, c'est intéressant de discuter avec elle, mais qu'est-ce que vous aimeriez offrir à un enfant? De quoi pensez-vous qu'un enfant a besoin? Et là, on avance un petit peu dans le futur pour les aider à continuer.